Il vient, il est venu, il reviendra. De qui s'agit-il? En trois affirmations, nous venons de résumer le message central de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, depuis Moïse jusqu'à Jean l'Évangéliste, à savoir Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ou première partie de la Bible, il est l'espérance de tout un peuple. Il est son idéal. Les prophètes ont su entretenir cette espérance par des révélations de plus en plus précises, lesquelles promettaient au peuple élu un futur de gloire et de prospérité. On ne connaissait pas son identité exacte. On le savait fils de roi, fils de David, héritier de son trône. Ésaïe disait, on l'appellera « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix ». Avec le Nouveau Testament, nous assistons à la venue de ce promis. En fait, très peu de gens le reconnaissent, car il ne correspond pas du tout à l'image glorieuse, conquérante et vengeresse qu'on se fait du Messie. Alors on le crucifie, mais il ressuscite trois jours après. Dès lors, nous assistons à la montée invincible d'un mouvement, mené par une douzaine d'hommes sans instruction ni influence politique, une douzaine d'obscurs Galiléens qui bouleverseront la face du monde en annonçant d'abord aux Juifs de Jérusalem que le Messie qu'ils attendent, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Méprisant la prison, la torture et la mort, ils proclameront la résurrection du Christ, son ascension et ce qui constitue désormais la glorieuse espérance de l'Église, son retour. C'est Jésus lui-même qui leur dit peu de temps avant sa mort « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Plus tard, l'apôtre Paul rappellera aux chrétiens de la ville de Philippe, en Macédoine, que contrairement à ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mentionnons encore les derniers versets de la dernière page de la Bible, lesquels contiennent à la fois une affirmation « Oui, je viens bientôt » et une prière fervente « Amen, viens Seigneur Jésus ». Ces trois passages bibliques ont été choisis parmi de nombreux autres, et nous pouvons dire que le retour du Christ est une réalité chrétienne, une assurance dans l'espérance. Une question se pose à présent, quand doit-il revenir? La Bible répond-elle à cette question? Il est évident qu'il n'y a pas dans les Écritures d'indication précise quant au jour et à l'heure. Ce temps semble être particulièrement tenu secret par la volonté divine. Jésus dit à cet égard, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cela n'a pas empêché certains hommes de faire des calculs à partir de sombres prophéties de l'Ancien Testament pour déterminer la date exacte du retour du Christ. Le fondateur d'une secte bien connue avait avancé le 22 octobre 1843. Ce jour-là, tous ses disciples attendirent, confiants, dans la parole de leur maître spirituel. Hélas, rien ne se produisit puisque nous sommes encore là pour en parler. Alors le prophète admit sincèrement qu'il s'était trompé, mais d'une année seulement, et on fixa 1844 comme année qui marquerait la fin du monde et le retour du Christ. Le fondateur d'une autre secte avait avancé 1914, et nous pourrions ainsi en mentionner plusieurs. Ce qui surprend, c'est que ces échecs, s'ils ont provoqué quelques défections dans les rangs de ces sectes, sont loin de les avoir détruites, car on finit toujours par retomber sur ses pattes. Toutes les possibilités de l'imagination humaine furent mobilisées et on finit par annoncer solennellement que les prophéties s'étaient quand même réalisées. Personne n'a rien vu, mais nous ne devons pas nous laisser asservir par nos sens. Alors, pour certains, le Christ est revenu d'une manière invisible, à la date prédite. Pour d'autres, une ère nouvelle s'est ouverte, inaugurée dans le ciel à la date promise, etc., etc. On demeure confondu devant la crédibilité des pauvres gens victimes de ces séductions. Car il faut le dire, ces sectes spécialisées dans les prophéties exercent une véritable séduction sur les gens plus soucieux de connaître l'avenir que la vérité. N'est-il pas plus sain et plus sobre de s'en remettre à la recommandation de Jésus qui nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour va venir votre maître ». tandis que les Écritures déclarent qu'il nous est impossible de connaître le jour et l'heure, qu'il ne nous appartient pas de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité, elles abondent néanmoins en précision quant aux événements qui accompagneront ce retour du Christ. Comment reviendra-t-il et par quoi son avènement sera-t-il marqué? À ces questions, la Bible nous apprend que le regard de notre espérance doit se porter vers le ciel. C'est de là qu'il apparaîtra. Le jour de l'ascension, comme les apôtres ont les regards fixés vers le ciel pendant que leur maître s'en va, un messager divin leur annonce que le Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cette promesse confirmait ce que Jésus leur avait déjà annoncé. On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec grande puissance et avec gloire. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, écrit avec ferveur « Voici, il vient sur les nuées » et pour souligner la puissance et la répercussion de ce retour, il ajoute ce détail poignant « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Que se passera-t-il ce jour-là? Jésus dit qu'on le verra venant sur les nuées. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Dans un autre discours, Jésus dit encore « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » L'auditoire de Jésus, composé de personnes de condition modeste, pêcheurs et bergers pour la plupart, ne pouvait pas ne pas comprendre que c'était là une promesse formelle du jugement dernier. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul décrit dans un style vigoureux le caractère implacable de ce jugement à l'égard des rebelles. Voici ce qu'il écrit. « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Si le Christ revient pour exercer son jugement au dernier jour, il revient aussi pour ressusciter les morts. C'est ce qui ressort de la lecture de plusieurs textes. Cette promesse de la résurrection eut le don d'apaiser l'esprit des premiers chrétiens. En effet, leur angoisse était motivée par l'incertitude concernant leur mort. Si le Christ revient, il nous prendra, nous les vivants, mais qu'adviendra-t-il de nos morts? Tous ceux qui ont vécu dans la foi sont-ils morts en vain? À ce cri, Paul répond avec une grande tendresse toute paternelle. « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Dans ce passage, l'apôtre Paul ne s'est préoccupé que des chrétiens morts dans la foi. Son but immédiat est de calmer l'esprit troublé de ses frères. Il ajoute d'ailleurs un mot qui nous est à nous aussi, directement adressé. « Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. » Jésus, lui, se place d'un point de vue plus panoramique, dirons-nous. Dans une parole qui plonge ses auditeurs dans la stupéfaction qu'on devine, il annonce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Parallèlement, dans un de ses discours, l'apôtre Paul déclare lui aussi qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà brièvement quels sont les enseignements principaux du Christ et de ses apôtres sur le sujet de son retour. Nous rappelons à nos auditeurs que toutes les références précises des passages bibliques que nous citons figurent sur le texte imprimé de nos causeries. Toutefois, pour être aussi complet que possible dans une étude aussi brève, il faut encore faire mention du cataclysme qui marquera aussi ce jour du Seigneur. L'apôtre Pierre écrit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dans sa vision, l'apôtre Jean donne cette précision. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Ce sera la vie éternelle dont Jésus a tant parlé. Elle est décrite dans la Bible en termes symboliques. Ce sera une nouvelle existence dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, avec 12 fondements de pierres précieuses, des rues en or, etc. La description est fabuleuse, nous le voyons bien. Elle use de mots humains pour décrire ce qui est divin. Elle ne peut que nous laisser une impression de merveilleux, d'admirable et de sublime. En conclusion, nous insisterons encore sur le danger de séduction que comportent les vaines spéculations sur le retour du Christ, par l'épluchage des textes prophétiques obscurs ou le repérage des signes avant-coureurs. De toute manière, nous pouvons affirmer avec les apôtres que nous sommes parvenus à la fin des siècles, et cela depuis que le Christ est venu sur la terre. Pierre dit de lui qu'il s'est manifesté à la fin des temps. L'Épître aux Hébreux utilise l'expression « à la fin des siècles ». Souvenons-nous seulement du fait que le grand discours de Jésus sur la fin du monde se termine par ces mots « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Maître doit venir. » En effet, à quoi bon nous demander si la fin du monde est pour demain, alors que la fin de notre vie est peut-être pour aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous devons veiller, prier et nous nourrir de la parole de Dieu pour demeurer spirituellement lucides et conscients de notre travail sous le regard de Dieu.